part, il n'est dit qu'il a été l'architecte de la pyramide de Khéops. Ce sont simplement, à partir, les égyptologues travaillaient à partir des sources qui sont à leur disposition, donc on suppose que ça doit être lui, mais si ça se trouve, il y avait un autre mastaba, une autre tombe, d'un autre chef de tous les travaux du roi, qui était le véritable ordonnateur et architecte en chef de la pyramide et de tout le complexe funéraire.
Ounas monte sur cette échelle que lui fit son père Ra.
Archives RTS, 1965.
Il s'assied sur le grand siège à côté du grand dieu. Bienvenue, te dit ton père. Bienvenue, Ounas, te dit Ra. Les portes du ciel te sont ouvertes, les impérissables te suivent, les compagnons de Ra te servent. Jamais le ciel ne sera vide de toi.
Pourquoi cette forme pyramidale ?
Là aussi, il n'est pas le premier à utiliser une forme pyramidale, mais on n'a pas d'idée très précise sur l'origine de cette forme pyramidale. Certains pensent que, d'après les textes des pyramides, des textes qui seront inscrits dans les pyramides à une époque postérieure, mais qui existaient probablement déjà à l'époque de Khéops, même avant Khéops, mais qui n'étaient pas encore inscrits dans les pyramides, mais peut-être que dans son tombeau, il avait emporté un papyrus, sur lequel il y avait ces textes qu'on appelle les textes des pyramides. Dans ces textes des pyramides, souvent on parle d'une échelle pour monter jusque dans les cieux. Donc est-ce que cette pyramide rappellerait une forme d'échelle qui permettrait au roi de monter ? Ou est-ce que ce serait une sorte de rayon lumineux un peu pétrifié ? Tout ça sont des hypothèses pour lesquelles on n'a pas de réponse en fait.
Du Nil, près du petit village de Gizeh, la végétation fait brutalement place au sable aride du désert, au pied du plateau rocheux qui supporte les pyramides.
Là, l'image symbolique du roi, le dieu vivant figuré sous les traits d'un gigantesque lion à tête humaine, que les Grecs appelèrent le Sphinx, salue depuis 4 millénaires le soleil naviguant dans sa barque du matin. Ce roi-dieu, c'est l'Horus de l'horizon, celui qui veille sur les 3 grandes pyramides les plus célèbres de l'Égypte, et qui sont les tombes grandioses des rois de la 4e dynastie.
Comment est-ce à l'intérieur de cette pyramide de Khéops ?
L'intérieur de cette pyramide de Khéops, il fascine un petit peu tout le monde, parce qu'il y a toute une série de couloirs et de chambres dont on ne retrouve pas l'équivalent par la suite. Il y a une chambre qui se situe tout en bas, qui est creusée à l'intérieur de la roche mère du plateau, qui est, semble-t-il, inachevée. Alors, est-ce que c'est inachevé parce que le roi est mort, ou est-ce que c'est inachevé et que c'est une volonté de laisser tout cela inachevé ? Alors là, vous avez toutes sortes de théories qui fleurissent. Et dans les parties construites, il y a 2 autres chambres. À l'étape intermédiaire, si j'ose dire, vous avez une chambre qu'on appelle la chambre de la reine. Mais là encore, personne ne peut dire que la chambre ait servi à enterrer une reine de Khéops, et très probablement elle n'a jamais servi à cela. Et puis, juste un petit peu au-dessus, vous avez une autre chambre qu'on appelle, alors là, la chambre du roi. Et on arrive à cette chambre du roi, qui est, si vous voulez, un peu le point culminant, par un grand couloir ascendant. La première partie du couloir, elle est assez bas de plafond, et vous arrivez à un moment dans ce que tous les gens connaissent, c'est-à-dire la grande galerie, qui est une magnifique galerie extrêmement haute, qui vous, d'un seul coup, vous vous mettez à respirer quand vous arrivez dans cette galerie, qui est bâtie avec une voûte en encorbellement, c'est-à-dire que c'est un plafond qui est en fait fabriqué en rapprochant assise après assise, les blocs supérieurs, on se rapproche de 20 cm environ à chaque fois, jusqu'à ce que les blocs de la partie supérieure se touchent. C'est magnifique, c'est pas lui qui l'invente. Les voûtes à encorbellement comme ceci, elles apparaissent déjà chez son père Snéfrou. Donc il réutilise des éléments qui existaient auparavant, et puis il invente de nouveaux procédés aussi architecturaux. On est vraiment dans une époque de tâtonnement et d'essais architecturaux. Alors là, c'est un essai qui a particulièrement bien fonctionné, puisque la pyramide, l'intérieur de la pyramide a été conservé absolument intact. Cette grande galerie nous amène dans ce qu'on appelle la chambre du roi, où se trouve encore aujourd'hui un sarcophage en granit. Donc on n'a pas retrouvé le couvercle. On n'a pas retrouvé d'éléments du roi à l'intérieur, mais il a été pillé depuis au moins le 9e siècle de notre ère. Et très certainement, en fait, il a été pillé dès l'époque des anciens Égyptiens. Donc, c'est pas étonnant du tout qu'on ait rien retrouvé. Mais certains se disent qu'après tout, si jamais il n'y a pas le corps, si jamais il n'y a pas de couvercle, c'est que cette chambre n'est pas une vraie chambre du roi. Alors là, après, vous avez tous les fantasmes, on pourra en reparler de tout cela, qui peuvent s'éveiller, on peut penser à tout, hein, on a le droit. Et au-dessus de cette chambre, vous avez une série de 5 petites chambres, qui sont, alors on l'a appelé ça des chambres de décharge ou autres, 5 plafonds, si vous voulez, qui se succèdent les uns après les autres avec des petites chambres et qui sont eux-mêmes terminés par encore une autre, 2 énormes blocs qui sont placés l'un contre l'autre en chevron, qui devaient permettre aux poussées qui étaient exercées par le poids qu'elles devaient conserver, aux poussées d'être réparties sur les côtés de manière à ce que eh bien, la chambre soit conservée intacte. Alors pourquoi ces 5 chambres juste au-dessus ? On ne sait pas exactement, ça fait à peu près quand même 2000 tonnes de granit, hein, parce qu'en plus elles sont en granit, c'est quelque chose de colossal. Réussir à apporter cela aussi à une telle hauteur, depuis l'extérieur, on reparlera probablement de la construction des pyramides, c'est aussi un prodige.
On peut visiter cette pyramide de Khéops, mais il ne faut pas du tout être claustro, on est d'accord.
Voilà, c'est vraiment ça, il ne faut pas être claustro, il faut essayer de venir à un moment où il n'y a pas trop de touristes en Égypte, parce que sinon...
Et le matin.
Et le matin, en effet, pour avoir moins de suée, mais c'est vraiment un peu comme le mont Everest aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez les gens qui se suivent les uns derrière les autres, on fait la queue pour monter, et on doit emprunter le même chemin pour redescendre. Donc vous avez les gens qui ont terminé leur visite, qui redescendent pendant que vous êtes en train de monter. Donc non, il ne faut pas être claustrophobe.
Extrait du film La Terre des Pharaons, 1954.
Aujourd'hui, j'ai envoyé des messagers à travers tout le pays. Dans chaque ville, dans chaque village, ils emportent ce décret. J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future.
Les ouvriers qui ont travaillé sur cette pyramide de Khéops.
Alors, on n'a pas trop de renseignements sur ces ouvriers. Là aussi, l'estimation du nombre d'ouvriers qui ont été nécessaires pour construire cette pyramide varie énormément selon les égyptologues, de quelques centaines à des dizaines de milliers, etc. On manque de documentation pour arriver à savoir exactement comment tout cela s'est déroulé. On manque de documentation jusqu'en 2013. Là, en 2013, il y a une découverte que, personnellement, je trouve être la découverte égyptologique la plus importante de ce début du XXIe siècle. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Une découverte qui a été faite par un égyptologue français qui s'appelle Pierre Tallet. Ce Pierre Tallet, c'est un égyptologue, j'allais dire, tout ce qu'il y a de plus normal, passionné par son métier. Au début, il a fait sa thèse sur le vin égyptien. C'est aussi un grand amateur d'ailleurs de vin, il vient de la région bordelaise. Il s'est intéressé aux étiquettes sur les jarres, les étiquettes écrites en hiératique. Ça a son importance, le fait que ces étiquettes soient écrites en hiératique. Le hiératique, c'est une écriture de la vie de tous les jours, si vous voulez. Ce sont des hiéroglyphes, mais très rapidement tracés. Quand on grave une inscription, elle est dans un environnement sacré, on la grave en hiéroglyphe. Mais pour tout le reste de la vie quotidienne, quand on écrit une lettre, on écrit en hiératique avec un pinceau et de l'encre noire. Donc il a fait sa thèse sur le vin, les vignobles, etc. Et puis il est allé fouiller en Égypte, il a participé à des fouilles dans le désert occidental, des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale. Et là, il s'est pris de passion pour les déserts. Et il a commencé à explorer tout le désert. Et puis, le désert occidental ne lui a pas suffi. Il est parti dans le Sinaï, dans le désert oriental. Et il est allé un petit peu partout à la recherche de ces traces infimes, en fait, de vie égyptienne. Dans les déserts, qu'est-ce qu'on y trouve ? Surtout des mines et des carrières. Des mines pour apporter les matériaux qui étaient utilisés par les Égyptiens. On y trouve de l'or, mais aussi du minerai de cuivre. Le cuivre, très important. Très important aussi d'ailleurs pour la construction de la pyramide de Khéops. Donc il s'est promené un petit peu partout et il a essayé de retrouver aussi un ancien port sur la mer Rouge. Il en avait déjà fouillé un premier, mais dans certains écrits assez peu connus d'égyptologues, et même de non pas d'égyptologues professionnels, mais de marins qui s'étaient essayés à l'archéologie, si vous voulez, au moment d'ailleurs de la construction du canal de Suez et autres, il a retrouvé des traces d'un établissement portuaire qui devait se situer sur la mer Rouge, mais on ne savait plus trop bien où est-ce qu'il était. Donc il s'est promené un petit peu partout, comme ça, et il a retrouvé cet établissement, on l'appelle maintenant le Wadi Esjarf, sur la mer Rouge. Et il a retrouvé un port, qui est probablement le premier port de l'histoire égyptienne, connu, avec une grande jetée, qui n'est même pas simplement le premier port de l'histoire égyptienne, mais le premier port de l'histoire de l'humanité, connu jusqu'à présent. Et il a retrouvé aussi, à cet endroit, d'étranges tunnels, une sorte de syringe creusée à l'intérieur de la roche. Ces tunnels étaient en partie bouchés par une sorte de gros bouchon de pierre. En enlevant ces bouchons de pierre, il a découvert derrière, en fait, des vestiges de bois et autres. On en a d'autres exemples ailleurs, et il en avait lui-même d'ailleurs découvert d'autres exemples ailleurs, des fragments de bois et autres, et en fait, c'était des caches pour des bateaux égyptiens. Parce que sur la mer Rouge, les Égyptiens avaient ce port, et ils avaient des bateaux qui leur permettaient, à certains moments, lors de certaines saisons, de prendre la mer, parce que les Égyptiens, on l'oublie parfois, étaient de vrais grands navigateurs, ils ne naviguaient pas uniquement sur le Nil, et donc ça leur permettait de partir, notamment vers le célèbre et mystérieux pays de Punt, d'où ils rapportaient plein d'éléments, alors des animaux africains, ou d'Arabie, ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite et autres, le Yémen. Ils partaient là-bas, ils en rapportaient aussi plein de minerais différents. Donc il était très content avec ça, déjà c'est une découverte magnifique, il a retrouvé ses caches pour bateaux, et en fait, les bateaux étaient, oui j'ai oublié de vous le dire, étaient déconstruits, si vous voulez. Donc c'est-à-dire que on utilisait les bateaux pour partir en Afrique ou au Yémen, et une fois qu'on revenait d'expédition, on n'allait pas ramener les bateaux jusqu'en Égypte, dans la vallée du Nil, on n'allait pas les laisser non plus sur les bords, donc on détachait chaque planche, et on plaçait toutes ces planches à l'intérieur de ces grandes cachettes, et quand on venait l'année d'après et qu'on voulait refaire une expédition, on déplaçait les blocs, on sortait les planches, et on reconstruisait les bateaux. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc ça, ce sont des découvertes absolument sympathiques et fondamentales, mais juste sympathiques. Et en 2013, c'était sa troisième, je crois, campagne au Wadi Esjarf. À ce moment-là, en déplaçant ces gros blocs, bouchons qui bouchaient l'entrée de ces cachettes, ils ont commencé à trouver des petits bouts de papyrus. Et puis plus de papyrus encore, et plein de petits bouts de papyrus, et beaucoup de papyrus, et puis pas juste des petits bouts, des grands papyrus, pas intact, mais de très grande largeur, 60, 80 cm de largeur, pratiquement bien conservé. Et vous imaginez son excitation quand il tombe là-dessus. Je suis d'une jalousie folle de savoir qu'il a trouvé tout ça. Et donc, il prouve ses papyrus, et immédiatement, c'est un hiératique assez bien écrit, il voit le nom de Khéops dessus. Donc des papyrus qui mentionnent Khéops partout. Alors, première chose, on n'a jamais retrouvé de papyrus de l'époque de Khéops. Ce sont les papyrus les plus anciens jamais retrouvés en Égypte. On a retrouvé des petits bouts de papyrus antérieurs, mais non inscrits. C'est juste le papyrus prêt à être inscrit. Et là, vous tombez sur une archive, car en fait c'est une archive, de papyrus de l'époque de Khéops. Alors ça, c'est déjà en soi une découverte extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, quand il va commencer à déchiffrer l'ensemble de ces papyrus, il se rend compte que pour beaucoup, ce sont des carnets de bord d'un capitaine de bateau, de plusieurs capitaines de bateau. Et l'archive qui est la mieux préservée, le papyrus qui est le mieux préservé, il doit, d'après ses calculs, il doit y avoir environ sept carnets de bord, si vous voulez, différents, conservés. Et l'archive la mieux conservée, le papyrus le mieux conservé, mentionne un certain monsieur Merer, l'inspecteur Merer, maintenant on l'appelle l'inspecteur Merer, et c'est le chef d'une équipe qui avait son bateau à lui, si vous voulez, enfin qui dirigeait une équipe sur un bateau, qui a participé à ces expéditions, donc pour aller vers le pays de Punt et autres. Sauf que les archives qu'il a conservées ici, elles ne parlent pas du tout de ses départs sur la mer Rouge. Il y a un carnet de bord qui raconte que cet inspecteur Merer a été utilisé avec son bateau à d'autres travaux, et ces autres travaux, c'est la construction de la pyramide de Khéops.
Pour Héliopolis en bateau de transport pour nous apporter de la nourriture d'Héliopolis pendant que l'élite est à Toura. Jour 2. L'inspecteur Merer passe la journée avec sa troupe à transporter des pierres à Toura Nord. Il passe la nuit à Toura Nord.
On est à des centaines de kilomètres de la pyramide de Khéops et on retrouve là des éléments absolument fondamentaux qui vont nous permettre d'approcher la pyramide de Khéops au moment de sa construction. Vous imaginez que c'est quelque chose d'absolument... Personne n'aurait osé envisager, rêver une découverte comme ça. Alors, il ne vous explique pas comment on a construit la pyramide elle-même, mais on voit déjà que vous avez des bateaux qui sont envoyés, on s'en doutait, mais au moins ça te permet déjà d'éliminer toute une série de théories farfelues sur la construction de la pyramide de Khéops avec, je ne sais pas, des blocs de béton coulés ou des choses comme ça. Donc, ce que ça nous apporte déjà, c'est qu'on voit qu'il y a une logistique énorme.
Jour 25. L'inspecteur Merer passe la journée avec son équipe à transporter des pierres à Toura Sud. Il passe la nuit à Toura Sud. Jour 26. L'inspecteur Merer quitte Toura Sud avec son équipe en bateau, avec le plein de blocs de pierres, pour rallier la Grande Pyramide.
Construire une pyramide comme ça, les Égyptiens étaient extrêmement bien préparés. Ils avaient un personnel extrêmement qualifié, qui sont ces gens, une sorte d'armée de marins, en fait, qui étaient employés pour toutes sortes de tâches. Il y a d'autres papyrus qui ont été retrouvés dans l'archive où on les voit partir dans le delta du Nil, aller construire d'autres choses, etc. Donc ils avaient plusieurs tâches différentes en fonction de l'époque de l'année. Et ils font partie d'une équipe qui s'appelle une filée. On sait que ces équipes qui ont travaillé sur la pyramide de Khéops étaient des grandes équipes. Une équipe, ça s'appelait une équipe Aper. Et cette équipe, elle était constituée de 4 sous-équipes, si vous voulez, 4 filets. Et chacune de ces filets était constituée de 4 sections de, semble-t-il, pour cette époque, 10 hommes. Donc, si vous voulez, une filée, ça fait 40 hommes. 4 x 4, 16, 160, une équipe, ça faisait 160 hommes à peu près, et il devait y avoir toutes ces séries de 160 hommes d'équipes qui devaient travailler sur le chantier de la pyramide de Khéops. Lui, bah, modestement, il faisait partie d'une équipe qui transportait des blocs de calcaire depuis la rive est jusqu'à la rive ouest. Alors, on a tout son planning de la journée, parce que tout ça est contrôlé. En fait, son carnet de bord, c'est pour bien voir s'il a bien accompli son travail. Il faut bien s'imaginer que dans l'Égypte ancienne, ce sont les scribes qui dominent. C'est toute l'administration. C'est pour ça que ça marche aussi, d'ailleurs. C'est qu'on voit si chacun fait bien son travail. Et donc, ça nous permet de voir les rotations. On voit que, grosso modo, sur 10 jours, les semaines durent 10 jours, il fait 3 allers-retours pour apporter des blocs. Donc ça va assez vite. Des petits blocs, quelquefois des plus gros blocs, il va faire d'autres choses aussi, etc. Il y a une foule de renseignements absolument incroyables qui nous ont été apportés par ces papyrus du Wadi Esjarf. Donc là, on est vraiment avec un document absolument exceptionnel pour arriver en direct sur la construction de la pyramide de Khéops.
Extrait du film La Terre des Pharaons, 1954.
D'un seul cœur, le peuple répondait à l'appel de Pharaon. Il arrivait des fermes et des oasis, des vallées et des montagnes. Il abandonnait son existence habituelle et se mettait en route vers la tâche sacrée. Et il chantait des chants de foi et d'allégresse.
Se trouvaient sur place, qui construisaient la pyramide, que sait-on de leurs conditions de travail? Parce que là aussi, on a tout entendu.
Oui, alors c'est vrai que les auteurs grecs, notamment, disaient qu'ils étaient simplement se nourrissaient d'oignons, de choses comme ça. Alors, pour reprendre ces papyrus du Wadi Ejarf, il y a aussi beaucoup de tableaux d'apport de nourriture. Donc on voit qu'ils sont très bien nourris. Ils ont de la viande, ils ont des légumes, ils ont de la bière, ils ont de toutes sortes de pains, des gâteaux, etc. Les pains, c'est quand même la base de la nourriture, mais on voit qu'ils sont, ils font partie d'une classe un peu privilégiée. Alors, tous les ouvriers travaillant sur la pyramide de Khéops n'étaient peut-être pas du niveau de ces ouvriers-là, mais pour autant, ils étaient quand même constitués en équipe et on voit que ça fonctionnait assez bien. On a aussi un autre document, alors là qui n'est pas écrit, mais qui est une source archéologique. Il y a un village qui est probablement le village des ouvriers qui ont travaillé à la construction de la pyramide de Khéops, probablement aussi la pyramide de Khéphren. L'essentiel des attestations en fait, qu'on trouve dans ce petit village date plutôt de l'époque de Khéphren, donc le successeur, un des successeurs de Khéops. Et ce village, il a été fouillé par un archéologue américain qui s'appelle Mark Lerner, depuis 30 ans, hein, ça fait 30 ans qu'il est là-dessus, et il a fouillé toutes ces maisons de manière extrêmement méticuleuse, et il a pu reconstituer le quotidien de ces gens, et on voit que, alors, ils étaient dans des sortes de grands baraquements en temps de peine, si vous voulez, ils avaient chacun, chaque équipe d'ailleurs, avait un baraquement, les équipes dont on parlait tout à l'heure, les filets, étaient logés à l'intérieur d'un baraquement, et puis on y a retrouvé des éléments, il y avait des boulangeries à côté, où on voit que la vie ne devait pas être si difficile que ça, en fait, donc ils étaient plutôt bien nourris. Donc, grâce à l'archéologie, le travail archéologique sur ces habitats, et grâce à l'écriture, c'est-à-dire les éléments retrouvés sur ce papyrus du Wadi Ejarf, les deux vont tout à fait dans le même sens. On voit bien que l'un éclaire l'autre et tout cela nous